Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Bonjour à tous, c'est l'heure de notre moment d'échange, de partage d'expérience, de confidence. On se dit tout, c'est chaque jour un thème qui vous concerne et vous venez en parler. Pas simple aujourd'hui, écoutez cet extrait.
Ça a vraiment commencé à partir du CM2. On me disait t'es qu'un PD, t'es qu'une gonzesse. On se moquait de moi tout le temps. Ça devenait de plus en plus violent. Après j'ai trouvé ce que je pensais être ma voie. C'est-à-dire j'ai fait une école professionnelle de restauration. Et dans cette école, alors là, ça a été le summum. On me crachait dessus, on me balançait des trucs. On me disait, t'es pas normal, t'es pas naturel, on dirait un vagin sur pattes.
Patrick Timsit qui lit le témoignage d'une personne victime d'homophobie et on va en parler aujourd'hui de ce sujet grave mais malheureusement toujours d'actualité. L'homophobie, acte homophobe, on l'a entendu sur la braderie de Lille, sur un maire du Val-de-Marne visé par des tags homophobes, sur les marches des fiertés à Nantes, vandalisé. Toutes ces manifestations de mépris, de rejet, de haine, de violence envers les personnes homosexuelles, ça peut se passer dans le cercle familial, à l'école, au travail, dans la rue. On va en parler avec vous qui avez déjà été victime, qui avait souffert, qui en souffrait peut-être encore aujourd'hui. 0810 055 056, venez apporter votre témoignage. Si votre homosexualité a déjà posé un problème dans votre entourage, chez vos amis, vos collègues ou de la part d'inconnus, notre grand témoin aujourd'hui c'est Frédéric Gall, le directeur de l'association Le Refuge, structure d'accueil pour les jeunes victimes d'homophobie. Bonjour Frédéric Gall.
Bonjour Vanessa.
Le Refuge qui a 15 ans et malheureusement 2018, on a toujours autant besoin de vous.
On a toujours autant besoin de nous et chaque année on a de plus en plus de demandes et de plus en plus de prises en charge, donc oui ça augmente.
Et ça commence même très tôt, on voit des très jeunes venir chez vous au refuge.
Et de plus en plus jeunes, beaucoup de jeunes qui demandent de l'écoute surtout et des conseils.
Et ça veut dire aussi qu'il y a des jeunes qui sont, on va dire, chassés de chez eux par leurs parents.
Et ça existe encore, ça continue à arriver que des jeunes soient exclus de chez eux et notre réponse, c'est toujours de pouvoir les héberger, les accompagner socialement et de pouvoir les réinsérer.
Et on va en parler aujourd'hui avec vous. L'homophobie, c'est le sujet d'On se dit tout et c'est parti.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
Selon le dernier rapport de SOS Homophobie, les actes homophobes ont augmenté en 2017 pour la deuxième année consécutive. On parle d'insultes, de menaces, de harcèlement, d'agressions physiques. On se dit tout, vous donne la parole aujourd'hui si vous aussi vous avez été victime de l'homophobie de la part de vos parents peut-être, de vos copains de lycée, de vos collègues de travail. Si on vous a agressé gratuitement comme ça dans la rue, verbalement ou physiquement, venez en discuter avec nous au 0810 055 056 et en compagnie du directeur du refuge, Frédéric Gall, qui est notre grand témoin. Et nous sommes dans l'Hérault avec Ali. Bonjour Ali.
Bonjour.
Vous êtes originaire du Maroc et des voisins ont porté plainte contre vous parce que vous étiez avec votre ami.
Tout à fait, c'était ça. Ben, j'étais au Maroc, je suis marocain et je vis avec mon copain. C'était totalement discret, mais en fait, les voisins ont porté plainte contre nous. Et, ils veulent plus d'homosexuels dans le quartier. Et nous, nous étions obligés de quitter après avoir une convocation de la part du procureur.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, on ne peut pas vivre son histoire d'amour, sereinement.
C'est complètement interdit. Il y a une loi qui interdit les relations entre les relations homosexuelles. C'est la loi 489. Et il y a encore beaucoup de militants des droits de l'homme qui essaient que ça soit dépénalisé, mais c'est encore maintenant.
Ça met du temps.
Et le problème, c'est que dernièrement, avec ce gouvernement islamiste, ils ont renforcé encore la pénalité pour l'homosexualité. C'est entre 6 mois et 3 ans de prison maintenant.
Ouais, il y a un retour en arrière qui est affolant quand même. Ali, aujourd'hui vous êtes en France. Ouais. C'était une façon pour vous de vivre votre histoire d'amour sereinement, de pouvoir vous promener main dans la main. Ça, c'est possible aujourd'hui pour vous, ce qui n'était pas le cas au Maroc.
C'est vrai, c'est possible maintenant ici. C'est vrai que on a vécu aussi des actes d'homophobie ici, mais là on sait bien qu'on est bien protégé par la loi française. C'est la grande différence entre ici et le Maroc.
Je vois sur votre fiche que vous avez fait appel au refuge.
C'est ça, oui. Après le problème qu'on a eu avec les autorités au Maroc, j'ai contacté plusieurs associations. On a pensé d'abord à à demander l'asile dans un pays qui accepte l'homosexualité et qui protège la communauté LGBT. Et puisque moi, je connais un peu la France, on a dit on va contacter des associations françaises. Et parmi ces associations, il y avait le refuge. Et c'est eux vraiment qui ont donné suite et que j'ai pu échanger avec eux. Et j'ai compris que c'est leur thématique, ça veut dire les discriminations contre les LGBT. Et du coup, ils ont accepté de prendre notre cas et notre dossier. Et après notre arrivée, ils nous ont aidés, surtout dans les démarches administratives, pour avoir le statut de protection internationale, ça veut dire réfugié politique.
Tout ça, c'est ce que vous faites, Frédéric Gall, au sein du refuge? Des cas comme Ali.
Tout ça, c'est notre quotidien. Mais le cas d'Ali est loin d'être bien sûr isolé. Il y en a plein comme ça. Alors, avec autant de difficultés, je dirais pas forcément tout le temps, mais de plus en plus, notamment dans les demandes d'asile, puisque Ali a souligné la demande d'asile. Et beaucoup de jeunes sont passés par des épisodes. Alors, heureusement, Ali et son compagnon étaient deux, donc ils ont pu aussi faire face plus facilement quand on est deux, mais c'est pas toujours simple. Mais d'autres sont seuls et doivent faire face à la violence à la fois, bien sûr, familiale, mais aussi des violences physiques, des violences sexuelles, des passages à tabac. Enfin, c'est des fois beaucoup plus, je dirais, hard que déjà l'histoire qui est compliquée.
Ali disait, on a voulu aller dans un pays qui protège la communauté LGBT. Sur le fond, oui, la France protège, mais sur la forme, on voit bien qu'il y a encore aujourd'hui de gros soucis avec des actes homophobes récurrents.
Légalement, oui, on a effectivement une loi qui protège, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. On prend notre pays, l'Italie, qui est pas très loin de chez nous, il n'y a pas de loi qui protège les personnes homosexuelles. Il y a des lois qui légalisent des unions civiles, mais qui ne protègent pas, comme nous on peut l'avoir en France, avec des lois spécifiques contre les discriminations. Mais encore faut-il effectivement que ce soit appliqué, et au-delà de l'aspect de « il faut que ça se fasse », il faut encore que les gens l'appliquent, et qu'ils soient formés à ça aussi.
C'est quoi vos projets, Ali, à vous et votre compagnon aujourd'hui?
D'abord, déjà mon copain, il a eu la chance, il a trouvé un travail. Et bien sûr, c'est grâce à l'aide du refuge qui nous aide encore. Et pour moi, je cherche encore dans mon secteur parce que moi, je suis agronome et je cherche dans le secteur d'agriculture ici en France.
Vous devriez trouver, j'espère vraiment. Merci Ali d'avoir ouvert cette émission, on vous embrasse et merci encore parce que c'est, plus on en parlera et plus ce sera facile aussi de dénoncer ce genre d'acte homophobe. Merci Ali, on continue d'en parler avec vous. L'homophobie, c'est le sujet dont se dit tout avec vos appels et vos témoignages au 0810 055 056.
Racontez-nous votre histoire, on se dit tout sur France Bleu.
Est-ce que vous vous êtes déjà fait insulter parce que vous êtes homosexuel? Est-ce qu'on vous a déjà harcelé au travail parce que vous êtes homosexuel? Est-ce qu'on rit de vous à voix haute dans la rue parce que vous êtes homosexuel? Est-ce qu'on vous a déjà fait mal physiquement parce que vous êtes homosexuel? On parle de l'homophobie aujourd'hui dans On se dit tout avec vos témoignages au 0810 055 056 et en compagnie de Frédéric Gall, le directeur de l'association Le Refuge, structure d'accueil pour les jeunes victimes d'homophobie. Et nous sommes maintenant avec Fabrice sur France Bleu. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors vous, c'est pas vous qui avez été directement concerné, mais indirectement, puisque c'est l'histoire de votre mari, rejeté par sa famille.
Oui, bien sûr. Bah en fait, pour faire court, on s'est connus il y a 17 ans. Lui, il venait d'avoir 18 ans, ça rappelle une chanson.
Et moi,
j'en avais 28. Et lorsque nous sommes rencontrés, lorsque nous avons commencé à se fréquenter, sa soi-disant meilleure amie a annoncé par téléphone, sans en parler à mon mari, qu'il était homo, avec qui il vivait, etc. Et quand ses parents ont su ça, tout simplement, ils lui ont laissé 15 jours pour faire ses valises et s'en aller. Voilà. Et ça fait 17 ans que c'est le silence radio, qu'on a essayé par tous les moyens de reprendre contact. J'ai moi-même essayé de pousser un peu à la roue mon mari pour qu'il garde contact, qu'on aille pour pas qu'on puisse dire que voilà. Mais non, ça n'a rien fait. Et le plus terrible, c'est qu'on s'est marié il y a 4 ans, qu'il y avait tous mes amis, il y avait toute ma famille, nos amis communs, mais il n'y avait pas sa famille, personne.
Ils ont donné une explication à un moment donné, ils ont mis des mots sur ce silence ou absolument pas?
Non, la seule chose qu'on sait, c'est que le fait qu'ils soient homo, ça n'est pas passé, ils n'ont pas accepté. Donc voilà, des mots, non, j'aurais bien aimé qu'ils en mettent, j'aurais bien aimé qu'on puisse en discuter avec eux, les rencontrer. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le contact est rompu. Il n'y a qu'une personne de sa famille qui lui parle, c'est sa sœur qui est à Perpignan, mais qui, elle, est... pour des raisons de religion, parce qu'elle s'est convertie à la religion musulmane. C'est pas dans ses convictions, donc elle nous accueille à bras ouverts. Mais après, la question de mariage, tout ça, elle veut pas en entendre parler. Mais on a ce contact avec elle. C'est la seule personne, voilà. Après, le reste de la famille, on n'a aucun contact. Et le peu de fois où on a essayé d'entrer en contact, ça a toujours fini par des insultes, enfin voilà quoi.
Ce mépris, ce rejet, cette haine, on a l'impression, Frédéric Gall, que ça vient souvent de l'extérieur. Et là, on se dit finalement, c'est la famille, ça doit être notre premier rempart. Mais ça arrive beaucoup plus qu'on ne l'imagine, des jeunes qui sont rejetés par leurs parents à l'annonce de leur homosexualité.
Ça arrive beaucoup plus, et beaucoup de personnes à qui on dit que le refuge existe se demandent d'abord si c'est pas un refuge pour animaux. Après le passage des animaux, ils se disent, tiens, il y a des jeunes virés de chez eux, bon oui. Et puis quand on leur explique que c'est des jeunes virés de chez eux à cause de leur homosexualité, là pour le coup, ils se disent, mais non, on est en 2018, donc ça n'existe plus. Et on se rend bien compte que bien sûr ça existe, qu'il y en a de plus en plus. Alors, est-ce que ça veut dire que de plus en plus de jeunes sont virés? Ça veut dire surtout que de plus en plus de jeunes sont identifiés comme homosexuels et que la réponse c'est de les mettre dehors ou qu'eux s'en vont avant que l'exclusion n'ait lieu. Mais bien sûr, ça existe de plus en plus. Et les motifs, et c'est pour ça que la question est intéressante à Fabrice sur savoir pourquoi. Il y a une question de religion qui est arrivée après, mais évidemment, parce que la sœur s'est convertie. Est-ce qu'avant c'était une question de religion? Est-ce que c'est une culture? Est-ce qu'ils en avaient déjà parlé de la question de l'homosexualité avant? Est-ce que le sujet est arrivé pendant... Alors, c'était il y a 17 ans, donc il n'y a pas encore un mariage pour tous. Mais des fois, on peut voir deux hommes ou deux femmes s'embrasser à la télé, et on voit aussi la réaction que peuvent avoir certaines familles. Et c'est des fois un peu trompeur, parce que on peut avoir des familles qui vont être très, très à dire « c'est dégueulasse, il ne faut surtout pas le voir », et qui finalement ne vont pas forcément mal réagir. D'autres familles qui, au contraire, sont très ouvertes, où on peut parler ça très librement, et où quand le jeune l'annonce, c'est beaucoup moins facile. Facile chez les autres, pas chez soi.
Et Fabrice, peut-être par exemple, vous avez toujours les coordonnées de ses parents, non?
Oui, on les a.
Vous savez, je vais leur envoyer le lien de l'émission, par exemple, ça pourrait être une bonne idée.
Non, je n'y tiens pas, parce que d'abord là je vous appelle, c'est de ma propre initiative, bon, mon mari n'a aucun souci, si je lui dis que j'ai appelé, ça ne posera pas de problème, mais après vous donner l'autorisation de donner un lien pour sa famille, tout ça, je pense pas qu'il soit d'accord, donc je m'y avancerai pas. Voilà, mais c'est clair que oui, on a leurs coordonnées, de toute façon ils les ont eues, mais voilà.
Mais peut-être qu'ils écoutent la radio, peut-être.
Ben, j'espère qu'ils écoutent la radio. Et s'ils écoutent la radio, j'ai juste envie de leur dire que le silence n'est pas la meilleure des choses et que s'ils m'entendent, qu'ils sachent que de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, c'est quand même leur enfant et que c'est le rejet de l'homosexualité ne le fera pas changer pour autant. Mmh. Donc c'est dommage parce qu'ils passent à côté de beaucoup de choses et des choses importantes parce que, voyons, on s'est mariés à 4 ans, c'était notre plus beau jour. Mais il y avait cette petite ombre au-dessus du mariage et c'est bien dommage.
Merci beaucoup Fabrice pour votre témoignage et vous ferai un gros bisou à votre mari au passage.
Merci beaucoup.
À bientôt Fabrice. Au revoir. On se dit tout continue grâce à vous comme chaque jour sur France Bleu.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Est-ce que vous avez l'impression que malgré les avancées sociales pour les homosexuels, je pense au mariage, je pense à l'adoption, c'est quand même de plus en plus difficile de bien vivre sa vie amoureuse? Est-ce que vous avez été victime d'actes homophobes? Et est-ce que c'est facile d'en parler, de se faire justice? 0810 055 056, on se dit tout sur France Bleu avec vos témoignages, vous qui subissez remarques, moqueries, humiliations, refus de service, harcèlement, injures. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est Frédéric Gall, le directeur du Refuge, une association qui accueille les jeunes victimes d'actes homophobes. Et nous sommes maintenant avec Christian dans l'Oise. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Vous êtes devenu gay sur le tard, vous dites?
Oui. Moi,
vous avez été marié avant,
hétéro,
avec une femme?
Enfant, et voilà, donc le couple n'allait plus. Et puis, moi, j'ai aimé la mère de mon fils, il n'y a pas de souci, mais je ne me voyais pas... la trompe avec une femme, donc en plus tous les problèmes de couple me dirigeaient vers plus la même chose que moi, voilà.
Et vous êtes aujourd'hui en couple avec un homme? Vous êtes remarié?
Non. Il y a eu un essai, ça n'a pas marché, et puis mais la séparation a été très très dure, elle voulait me faire, heureusement que mon fils n'a pas voulu, elle voulait me faire interner par un docteur, parce que j'étais gay.
Ah oui, d'accord, quand même.
Ouais, elle a été voir le docteur pour me faire interner, ça n'a pas marché parce que mon fils n'a pas voulu, mais s'il y avait l'accord des deux, c'était possible, hein. Et parce que j'étais malade, soi-disant. Et donc ça, et le divorce, j'ai obligatoirement pris un avocat gay, parce qu'elle m'annonçait que son avocate allait me démonter parce que j'étais un gay, Donc, mais ça, c'est pas possible.
C'était il y a combien de temps, Christian?
Ça a commencé il y a 6 ans et le divorce du nom a été fini au mois d'octobre. Et là, maintenant, c'est les biens. On n'a pas fini. Mais au point de vue justice, on est bien, par rapport au monsieur qui est du Maroc, là, qui a témoigné tout à l'heure, nous, on est quand même mieux. Hein. On est beaucoup mieux.
Et vous pensez très sincèrement, Christian, que si vous n'aviez pas dit, si votre femme n'avait pas su votre homosexualité, le divorce serait mieux passé?
Ça, je ne sais pas.
Bah ouais, c'est ça.
Mais j'ai des cas de couple. Moi, je parle pour couple hétéro avant. Hein. J'en vois énormément. Et j'ai eu beaucoup de témoignages et de rencontres que j'ai essayé de... Parce que moi, je ne suis pas allé vers comme le refuge, mais je suis allé vers des gens comme ça pour en causer, pour que ça me fasse énormément de bien. Et le problème, c'est toujours l'intelligence des gens. Hein. Quand les personnes en face sont bêtes, elles sont bêtes. Hein. Vous parliez tout à l'heure de quelqu'un à qui, à la télé, une famille réagissait mal parce qu'il voyait quelqu'un s'embrasser à la télé de même sexe. Moi, je connais un homme où sa belle-famille, le beau-père, du fait qu'il a su ça, après il a vu un fait comme ça se passer à la télé, il a tiré au fusil sur la télé.
Ah oui, quand même, ça fait peur. Ça fait peur d'entendre ça, ça fait peur aussi d'entendre votre ex-femme qui dit « on va te soigner », il y a eu des propos comme ça, « on va soigner l'homosexualité », enfin, c'est terrible. Et on est en 2018, c'est ça en fait, Frédéric, j'ai l'impression qu'on retourne en arrière de plus en plus.
C'est ça, en fait, on posait la question du temps, parce que ça aurait été il y a 15 ans, 20 ans, quand l'homosexualité était, d'un point de vue médical, éventuellement remise en cause, pourquoi pas. Mais là, il y a 6 ans, non, ce n'est pas du tout le cas. Et ça fait 30 ans hein, que maintenant, enfin même plus, que c'était en 90 de manière nationale, internationale, que ça a été enlevé. Mais c'est hallucinant d'entendre ce genre de propos-là. Et ce n'est pas très étonnant parce que finalement, beaucoup essaient de trouver soit une excuse pour se demander pourquoi est-ce que ce monsieur est devenu brusquement homosexuel, alors que c'est pas devenu, c'est simplement qu'il y avait des sentiments qui ont été à un moment exprimés, qui à un moment ne pouvaient pas s'exprimer, qui ont peut-être pu s'exprimer par la suite. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté médical qui revient régulièrement. Et dans l'intervention conforme milieu scolaire, régulièrement aussi, on nous met en avant cet argument médical, disant que c'est un problème. Alors soit un problème physique, où il y a eu un problème dans les hormones ou je sais pas quoi, un problème psychologique, où il y a eu un traumatisme dans l'enfance très grave qui s'est passé. Ou si c'est pas l'argument, c'est de dire, eh bien, vous avez une mauvaise rencontre, vous avez une influence négative de la part de l'extérieur. Et toujours, faut toujours trouver une excuse de se dire comment ça peut arriver, et toujours avec l'aspect médical, ce qui est assez inquiétant, même si d'un point de vue médical, bien sûr, il n'y a absolument aucun élément, ni de maladie, ni même de choix titre personnel.
Merci beaucoup Christian d'être passé par France Bleu, l'homophobie. On en parle avec vous aujourd'hui, la difficulté tout simplement à vivre son histoire d'amour, sa sexualité comme on l'entend, et on est en 2018, c'est vraiment ça qui est un petit peu rageant. 0810 055 056 pour nous rejoindre vous aussi.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Tristesse, repli sur soi, dépression, voilà comment certains homosexuels réagissent quand ils sont victimes d'actes homophobes à répétition. Et les actes homophobes ne reculent pas, bien au contraire. On se dit tout aujourd'hui sur ces actes homophobes dont vous avez peut-être été témoin, de la petite remarque au passage à tabac de la part de votre père, de votre collègue, d'un camarade de classe ou d'un inconnu dans la rue. 0810 055 056, France Bleu vous donne la parole. Et c'est Frédéric Gall qui est notre grand témoin, président de l'association Le Refuge. Et nous sommes maintenant avec Kevin dans l'Hérault. Bonjour Kevin.
Bonjour.
La première difficulté pour vous, elle a été avec votre famille. On vous a mis à la porte à l'âge de 18 ans. Racontez-nous votre histoire, Kevin.
Oui, je vivais chez ma grand-mère depuis très peu tout le temps. Et ma grand-mère, un jour, a appris que j'étais homosexuel et m'a clairement dit qu'à mes 18 ans, me mettait dehors, vu qu'elle ne pouvait pas me le faire avant. Obligée de me garder jusqu'à mes 18 ans. Car un juge familial m'a confié ma garde.
De par votre homosexualité, elle vous a juste dit ça?
Oui, elle m'a dit à mes 18 ans, elle me mettait dehors. Et après, c'était toujours ces remarques désobligeantes, rabaissantes, toujours le fait avec le sida et autres. Que j'étais pas comme tout le monde et que... voilà.
Et vous êtes vraiment retrouvé à la rue alors, Kevin, à 18 ans?
Oui, à 18 ans. Mais le jour de mes 18 ans, mes valises étaient devant ma porte et je suis parti.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça a été quoi la suite pour vous?
Bah, du coup, la suite, ça a été d'abord de se débrouiller, vraiment, sur le coup, je sais pas trop quoi faire. Donc, j'ai décidé de partir de ma région d'origine et d'essayer de recommencer une vie ailleurs, en espérant qu'elle sera meilleure, loin de ma famille et de tout le reste. Sauf que la famille est toujours présente, peu importe où j'y vais. Donc ça a continué, ma grand-mère qui m'appelait en m'insultant ou autre, c'était toujours ça.
C'est difficile, d'un côté on se dit c'est la famille, j'ai pas envie de peut-être de couper le lien, peut-être qu'un jour ils vont changer, et en même temps se prendre des réflexions comme ça en pleine face, c'est comme...
Oui.
On est entre les deux, enfin j'imagine
moments,
que vous étiez entre les deux.
Ne pas tourner la page, mais parfois il faut savoir aussi l'arracher la page.
Pour se protéger.
Moi j'ai pris la décision de couper les ponts avec toute ma famille, cette décision est prise en toute pleine de conscience, de ma conscience à moi. Et maintenant, je vis beaucoup mieux en sachant tout ça.
Est-ce qu'il y a des parents, parfois, Frédéric Gall, qui vous appellent, qui ont tourné le dos, par exemple, comme pour Kevin, et puis qui se réveillent, qui se disent, mince, peut-être appeler quand même le refuge, savoir si il y a moyen de retrouver mon fils, j'ai plus de nouvelles, qui regrettent ce geste-là?
On en a peu qui appellent pour avoir des nouvelles. On en a que certains qui le font. Maintenant qu'ils regrettent tout court, il y a toujours un lien généralement qui est maintenu avec l'enfant. Et c'est l'enfant lui-même en fait qui garde ce lien-là et qui peut discuter avec et qui peut reprendre contact. Parce que malgré tout, même si on arrache la page, je trouve l'image très jolie. Il y a toujours un lien et toujours un espoir aussi que le lien se fasse continu et que malgré tout, c'est la famille. Et quand on dit, la famille sera toujours présente d'un point de vue ne serait-ce que symbolique, mais en tout cas, elle sera forcément présente. Et certains veulent quand même garder ce lien-là, ils veulent garder contact, quitte à avoir toujours l'espoir que le retour soit positif et que le retour soit généralement négatif. Mais des fois, effectivement, ça change. Des fois, il y a aussi besoin de temps, de la part de la famille, de faire aussi un deuil d'un certain mode de vie qu'on imaginait, qui est dicté par la société, qui est dicté par l'hétérocentrisme qu'on peut avoir dans la société, et qui fait qu'il faut voir autre chose. Ça change pas grand-chose. La personne reste pareille, elle fait caca, pipi, elle dort, elle travaille, elle fait tout pareil. Seulement, c'est vrai que dans le regard des autres, ça sera différent. Et c'est ce sur quoi il faut travailler.
Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous sur France Bleu et d'avoir si bien trouvé les mots avec cette métaphore de la page. C'est fort, c'est impressionnant la façon dont vous l'avez dit surtout. Merci Kevin, on vous embrasse et on se dit tout continue, il nous reste 20 minutes à passer ensemble.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
L'homophobie, c'est le sujet dont se dit tout au 0810 055 056. Si vous avez connu ça à un moment de votre vie, des injures verbales, écrites, des moqueries, du harcèlement de la part de votre propre famille, même on voit bien que ça commence comme ça parfois. Est-ce que vous avez connu le refus d'un maire de vous marier? Est-ce qu'on a tout fait pour vous pourrir la vie sur votre lieu de travail? Venez nous raconter votre histoire avec Frédéric Gall, notre grand témoin, directeur de l'association Le Refuge, et avec Adrien qui vient de nous rejoindre depuis Marseille. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour.
Je parlais du travail à l'instant, c'est votre histoire, vous aussi?
Tout à fait, moi c'est... Et encore, moi, le contexte est assez spécial, parce que ça m'est, arrivé au sein d'une association d'utilité publique, loi 1901, qui bénéficie, de financement public, pour intégrer des personnes, des primo arrivants ou des personnes en marge de la société, pour et ainsi leur permettre de faire en sorte qu'ils soient moins victimes de la discrimination. Voilà.
Et c'est dans cette association que vous avez été vous victime.
Voilà, j'ai été comptable au sein de cette association. Voilà. Et le souci, c'est que la directrice, parce que c'est une femme, et ça l'est toujours, m'a fait subir des mauvais traitements. Excusez-moi, j'ai encore l'émotion parce que dans deux trois jours, je passe au prud'homme en conciliation pour et on va remettre tout ça sur la table, quoi. Et disons, c'était pas directement, mais elle se comportait. J'étais en contrat d'apprentissage en plus. Et elle se comportait extrêmement mal avec moi. C'était une psychologue clinicienne à la base, donc elle avait un discours très psychologisant. Enfin,
qu'est-ce qu'elle vous disait, par exemple, si c'est pas trop indiscret?
Ce qu'elle me disait, c'est par exemple que j'avais des soucis dans ma tête, que j'avais besoin de me faire soigner. Bon, et après, bon, d'un côté, ça me rassure. En même temps, oui et non, parce que il n'y avait pas que moi. C'est-à-dire, elle se défoulait vraiment sur tout le personnel. Elle, en gros, elle essayait de chercher les failles de chacun pour les désarmer, les démoraliser et les avoir sous son emprise, voilà. Et moi, c'était, par exemple, elle m'humiliait. Indirectement, elle disait de moi que j'étais, excusez-moi du terme, mais un petit PD auprès des autres membres du personnel. Après, les autres membres du personnel étaient très gênés envers moi parce que elles savaient que cette personne me traitait ainsi, donc ils avaient une gêne, voilà. Et voilà.
Je me tourne, Adrien, je me tourne vers notre grand témoin, Frédéric Gall. Comment ça se présente souvent, les discriminations sur le lieu de travail? Ce que nous dit Adrien, c'est... alors, au début, on parlait pas de mots, forcément, mais on est un peu la bête noire dans le service, sans forcément nommer l'homosexualité, parfois.
Alors, c'est à différents niveaux. Alors, le niveau que dit Adrien, qui est très clair sur les insultes directement, il y a aussi les petites insultes, alors... qui sont pas des insultes parce que les collègues considèrent que c'est des blagues. Et ce qu'ils ont pas compris, c'est que le principe de la blague, c'est que les deux parties rigolent. S'il y en a une des deux qui ne rigole pas, c'est plus une blague. Donc c'est la petite remarque, c'est le magazine porno qui est glissé dans le casier ou sur le bureau de manière laissée bien en évidence pour que tout le monde puisse rigoler et en profiter. Et ça s'appelle du harcèlement quand c'est répétitif. Il y a la mise au placard, hein, c'est-à-dire on confie des missions très subalternes finalement à des personnes qui en méritent beaucoup mieux. C'est un mélange en fait de comportements, et après il y a jusqu'au comportement qu'Adrien cite sur les insultes directement qui sont faites, et il existe heureusement des protections face à ça, la loi existe, est très claire, et le problème de la loi, c'est qu'il faut toujours apporter la preuve.
Mais
que
ouais,
c'est le
cas. On est toujours obligé de se défendre. J'espère que vous êtes bien accompagné, Adrien, pour aller jusqu'au prud'homme. Hein. Ça approche et on pensera bien à vous. On vous embrasse, Adrien. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu. On parle de l'homophobie aujourd'hui avec vos témoignages. Vous pouvez nous rejoindre pour encore quelques minutes au 0810 055 056.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Et on parle d'homophobie aujourd'hui sur France Bleu dans On se dit tout, ça n'arrive pas qu'aux autres, la preuve avec vos témoignages aujourd'hui. Vous pouvez encore nous appeler au 0810 055 056 avec notre grand témoin Frédéric Gall, le directeur de l'association Le Refuge, structure d'accueil pour les jeunes victimes d'homophobie. On n'a pas eu de femmes dans cette émission, est-ce qu'il y a des femmes qui font appel à vous au Refuge?
Non, bien sûr, on accueille des jeunes femmes, on accueille des jeunes 18-25 ans de manière générale, garçons et filles. Et des personnes en situation de transidentité, mais on accueille aussi bien sûr des femmes.
Et pourquoi il n'y en a pas aujourd'hui, par exemple, il y a moins de femmes qui sont victimes d'actes homophobes, ou alors elles n'en parlent pas? Comment ça se passe?
Peut-être plus d'auditeurs masculins, c'est une possibilité.
Peut-être.
Sinon, peut-être ils en parlent un peu moins, ça se voit peut-être un peu moins, et c'est peut-être un peu moins dérangeant que ce soit une femme qu'un homme par rapport à la question d'homosexualité, par rapport encore une fois à la place de l'homme dans la société, par rapport à l'hétérocentrisme, par rapport au machisme.
Ce qui n'empêche pas les actes homophobes envers les femmes.
Ah, bien sûr, ça ne les empêche pas. Ils sont même encore plus invisibles, malheureusement.
Marie-Françoise est avec nous à Nice. Bonjour, Marie-Françoise.
Oui, bonjour.
C'est bien d'avoir une maman aussi dans cette émission, parce qu'on a entendu beaucoup de jeunes qui ont parlé de leurs parents avec qui ça a été très compliqué, voire même impossible. Vous, on ne va pas dire que c'était simple au début, mais à
non,
force de dialogue et d'amour, ça...
Mois. Évidemment, ça a duré 2-3 mois où on a quand même... eu du mal, mais bon, après, on s'est dit que l'important, c'est d'avoir fait des enfants et de les rendre heureux. Si c'est leur bonheur, ben, il faut accepter. Voilà.
Quand vous dites que ça a été dur au départ, c'est que... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête de maman?
Dans notre tête de papa-maman, on se disait, oh, notre fille va avoir un bébé. Bon. Va se marier, avoir des enfants. Vous voyez, comme...
Mais vous savez que c'est le cas, c'est possible aujourd'hui, quand même.
Oui, c'est possible, mais bon, elles n'en veulent pas. Alors, elles n'en veulent pas, mais c'est ce côté-là qui est quand même assez dur. Qui est assez dur à accepter. On les voit tout de suite faire un beau mariage, avoir des enfants, vous voyez, c'est un peu ce, pour nous ça a été ça. Puis on s'est dit après tout, c'est leur bonheur. Si c'est ça qu'elle veut, ben elle veut ça. Hein. Nous on a voulu autre chose et ben voilà.
Alors le beau mariage et les bébés, Frédéric Gall, on peut quand même.
On peut depuis 2012, ça y est, on peut se marier, on peut avoir des enfants. Alors, l'adoption est toujours compliquée, mais de manière générale. Et pour les couples homosexuels, ils peuvent aussi effectivement avoir des enfants. Tout est c'est faisable. Après, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'avec un couple hétéro en termes de regard de l'autre. Mais c'est le regard de l'autre qui est dérangeant. C'est pas la qualité éducative qui, heureusement, ne s'arrête pas à la sexualité.
Et vous aviez peur aussi du regard des autres, vos amis, vos voisins, Marie-Françoise, on y pense
oui,
ça aussi.
Alors, on y pense, mais alors j'en ai discuté avec 2-3 amis, puis elles m'ont dit ben attends. Où tes amis, soi-disant, entre guillemets, sont des vrais amis et à ce moment-là, elles accepteront, ou elles ne seront pas des amis parce qu'elles n'accepteront pas. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est très bien comme ça. Et ouais. À votre façon, vous êtes militante, Marie-Françoise, aujourd'hui. Le fait de nous appeler. D'en parler.
Bien sûr, je le fais parce que je voudrais faire admettre aux parents qu'en fin de compte, elles n'ont pas fait des enfants pour eux, mais pour les enfants, et si vous voulez, c'est le bonheur de leurs enfants.
Mais c'est important d'avoir le discours d'une maman, et rien que pour ça, je vous remercie beaucoup, Marie-Françoise. Merci à tous aussi pour vos témoignages. On arrive à la fin de cette émission. Frédéric Gall, merci aussi d'avoir été avec nous.
Merci Vanessa.
Et bon anniversaire au Refuge.
Merci.
Bah ouais, ça continue encore après 15 ans, hein, c'est ça?
Ouais, c'est
15
ça.
Années d'accueil pour les jeunes victimes d'actes homophobes. Si vous avez raté le début de cette émission, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site francebleu.fr pour la réécouter en podcast. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter, à continuer de le faire sur la page Facebook de France Bleu. On se retrouve demain à partir de même heure, hein, avec vous sur France Bleu. On parlera de la chasse.